Oui, malheureusement, la question est vraiment d'actualité parce que, par exemple, les piscines de La Hague sont pleines. Ces piscines sont les endroits où on fait refroidir les déchets nucléaires qui sortent des centrales. Les piscines sont pleines, alors bien sûr, on projette d'en faire d'autres. Et le projet de CIGEO, un projet pharaonique qui consiste à créer des galeries de la superficie du métro parisien, pour pendant 100 à 150 ans ramener tous les déchets de France dans un seul endroit par train au rythme d'un train par semaine pendant 150 ans. Ce projet pharaonique permet à l'industrie de dire maintenant nous avons une solution. Nous rentrerons dans le détail de savoir quelle est donc cette solution et est-ce vraiment une solution. Mais en tout cas cette question est brûlante car elle est au cœur de la, ouvrez les guillemets, relance du nucléaire. Car si nous n'avons pas de solution pour les déchets, il paraît inconsidéré, irresponsable, de continuer à créer des déchets avec des nouveaux réacteurs, alors qu'on ne sait toujours pas quoi faire, des déchets qui ont été créés pendant 50 ans par les réacteurs français. Cette solution de CIGEO, aujourd'hui, le discours officiel est que c'est la moins mauvaise des solutions. Qu'il y aura de toute façon des remontées à la surface d'éléments radioactifs, la question étant quand ces remontées seront détectables, quelle sera leur dangerosité, mais en tout cas, personne ne pense que CIGEO fera office de sarcophage pour retenir tous les éléments radioactifs. L'industrie prétend donc que c'est la moins mauvaise des solutions. Moi j'ai envie de le formuler autrement et de dire il n'y a pas de bonne solution. Car si c'est la moins mauvaise, c'est qu'il n'y en a pas de bonne. Et s'il n'y en a pas de bonne, eh bien il faut sortir du nucléaire. Cela prend du temps, bien sûr, cela fera l'objet d'épisodes à venir. On n'improvise pas une sortie du nucléaire comme ça du jour au lendemain. La question centrale est bien sûr, comme nous en avons parlé le mois dernier, la question de la maîtrise de la demande en énergie. Et en électricité en particulier, car tant que nous consommons autant d'électricité et que nous la gaspillons surtout, il paraît improbable de trouver un mix énergétique sans nucléaire qui répondra à nos besoins. Commençons pour le moment par parcourir, en partant de l'extraction de l'uranium jusqu'à la fin de vie des réacteurs, où se trouve la quantité astronomique de déchets radioactifs que produit cette industrie. Bonne écoute. Et nous n'allons pas faire comme l'industrie nucléaire à repousser au calendrier grec la question des déchets, nous allons nous en occuper aujourd'hui. Alors c'est vrai que moi sur cette question-là, je ne connais rien. Donc on va partir un peu du début peut-être. Pourquoi il y a des déchets dans les centrales nucléaires ?
Ah.
Salut Bernard d'abord.
Bonjour. Bonjour Mathieu. Il n'y a pas des déchets dans des centrales nucléaires. La phrase, il y a des déchets radioactifs dans l'ensemble des activités associées à la production d'électricité d'origine nucléaire. Alors, il faut parcourir ce chemin qui nous amène depuis la mine jusqu'au déchet final. Avant de parcourir ce chemin, je pense qu'il faut préciser un peu qu'est-ce qu'on entend par déchets radioactifs. Parce ouais. qu'on dit toujours, tout le monde parle de déchets radioactifs ou de déchets nucléaires, mais après tout, c'est quoi ? Pourquoi est-ce que ces déchets sont considérés comme particulièrement dangereux ? Eh bien, ça vient du fait que la base même de la production d'électricité d'origine nucléaire, c'est l'utilisation de l'uranium. L'uranium est un corps qu'on trouve dans la nature sous la forme de minerais et qui lui-même est radioactif. Et ça veut dire quoi, la radioactivité ? C'est le fait qu'il y a un certain nombre d'éléments qui émettent des rayonnements, c'est-à-dire qui se modifient avec le temps et qui émettent des rayonnements qui sont des rayonnements dangereux. Alors il y a trois types de rayonnements, on appelle ça les rayonnements alpha, bêta et gamma.
Alors attends, parce que je ne voudrais pas qu'on se perde directement dans quelque chose de trop technique.
Oui, mais c'est, tu veux, moi, ce qui m'ennuie dans beaucoup de ces discussions, c'est que tout le monde, enfin, beaucoup de gens parlent des déchets nucléaires ou des déchets radioactifs, et que finalement, on ne sait pas pourquoi c'est dangereux et comment ça se manifeste.
Parce que moi, comme ça, je m'étais dit que ce qui était dangereux, c'est que c'était effectivement des matériaux radioactifs. Et moi, je l'entends sous la compréhension que c'est effectivement une matière qui émet des rayons. Alors, quel que soit ce type de rayon, c'est vrai que moi, je me pose pas trop la question de quels sont les rayons. Mais je me dis que voilà, c'est des rayons qui vont venir traverser mon corps et qui vont venir endommager des parties de mon corps et que c'est pour ça que les rayonnements sont dangereux.
Oui, c'est un peu ça. Simplement, le fait qu'il y ait plusieurs natures de rayonnement, c'est assez important parce que certains d'entre eux sont à très courte portée, parce qu'ils sont arrêtés, par exemple, par une feuille de papier. Ça suffit à arrêter des rayonnements alpha, par exemple. Par contre, les rayonnements bêta, ben, il faut une protection un peu plus importante. Et les rayonnements gamma, par contre, sont à une certaine distance. Et donc, comment se manifeste le risque pour les gens qui seraient dans une zone de déchets radioactifs? Ça peut être de deux façons. Soit ce qu'on appelle l'irradiation, c'est-à-dire le fait qu'ils reçoivent directement des rayonnements de l'extérieur.
Okay.
Et à ce moment-là, il peut y avoir des conséquences, par exemple, sur la peau, etc. Mais ce qui est souvent le plus dangereux, ce qu'on appelle la contamination, c'est-à-dire le fait qu'on absorbe, par exemple, des nourritures, des légumes, etc., qui ont été irradiés et qui eux-mêmes émettent des rayonnements. Et à ce moment-là, en les absorbant à l'intérieur, on peut avoir des quantités extrêmement faibles de matériaux radioactifs qui produisent des conséquences comme les cancers parce qu'ils sont à l'intérieur du corps.
Ok.
Donc, il faut quand même avoir cette perception du risque et comprendre que chaque fois qu'il y aura présent soit de l'uranium, soit des descendants de l'uranium qu'on va parcourir, à ce moment-là, il y aura un risque soit pour les travailleurs qui sont en contact avec ces matières, d'où la protection des travailleurs dans les usines nucléaires, et d'autre part, le fait qu'il peut y avoir des zones, par exemple après un accident nucléaire, des zones dans lesquelles il y a des éléments radioactifs, mais qui sont dispersés dans l'eau, dans l'air, dans les plantes, etc. Et que donc des populations, même longtemps après l'accident, peuvent être soumises à des risques radioactifs.
Ok, d'accord.
Alors, maintenant, remontons les choses. Donc, le centre, c'est-à-dire les réacteurs nucléaires, les réacteurs des centrales nucléaires. Qu'est-ce qui se passe ? Comment est produite cette électricité? Bon, elle est produite par le fait que on a mis dans ce qu'on appelle le réacteur lui-même de l'uranium, et dans cet uranium est formé de deux isotopes, l'uranium-238, l'uranium-235. Et l'uranium-235 est fissile, c'est-à-dire que dans des conditions qu'on a bien calculées dans le réacteur, on peut produire ce qu'on appelle la fission et la réaction en chaîne. La fission et les réactions en chaîne, en gros, c'est une mini-explosion d'un noyau d'uranium-235. Et cette explosion, multipliée par la réaction en chaîne, fait qu'on produit de la chaleur. Donc c'est ça, un réacteur nucléaire, c'est une nouvelle façon de produire de la chaleur. C'est-à-dire, c'est assez comparable à une chaudière à charbon. Dans une chaudière à charbon, je produis de la chaleur en faisant brûler le charbon. Dans une chaudière nucléaire, je produis de la chaleur par la fission et la réaction en chaîne de l'uranium-235. Et donc, cette chaleur permet de produire de la vapeur, et cette vapeur permet de produire de l'électricité après le passage dans un turbo-alternateur. Mais si je reviens au centre, dans le réacteur, ou ce qu'on appelle le cœur du réacteur, c'est-à-dire le combustible, j'ai cette production de chaleur dont on peut dire qu'elle est intéressante. On a trouvé une nouvelle façon de produire de la chaleur. Mais en parallèle, on produit à partir de cet uranium-235 et aussi d'autres réactions nucléaires qui se produisent à l'intérieur de ce combustible, on produit des corps radioactifs qui sont soit des produits de fission, c'est-à-dire les morceaux qui sont les résultants de la fission, soit ce qu'on appelle du plutonium, qui est produit à partir de l'uranium-238, et des actinides mineurs, c'est-à-dire des atomes lourds qui n'existent pas dans la nature. Donc on a créé avec ce système des produits radioactifs qui peuvent être très dangereux pendant des centaines, des milliers, voire des centaines de milliers d'années, qui sont très radioactifs et qu'on a produits en parallèle à cette production de chaleur. Et ça, on pourrait dire, c'est presque le péché originel du nucléaire, c'est-à-dire que, évidemment, c'est intéressant de produire de la chaleur, mais à quel prix ? Au prix de la production de produits radioactifs très dangereux et qui sont dangereux pendant des périodes, pour certains d'entre eux, extrêmement longues. Pour certains, ça peut être quelques secondes ou quelques heures ou quelques jours, mais pour d'autres, ce sont des années ou des milliers d'années.
Et donc, en fait, c'est... Enfin, toute réaction en chaîne avec de l'uranium va créer ces produits-là. Et ça, en fait, on le sait depuis le début. Et depuis le début, c'est quelque part, oui, effectivement, le problème majeur de l'industrie du nucléaire, c'est qu'est-ce qu'on fait de ces produits ?
Oui. Alors, il y a deux problèmes majeurs dans l'industrie nucléaire. Il y a d'une part l'accident possible d'un réacteur qui fait qu'il y aura projection dans l'atmosphère, dans l'environnement du réacteur, de produits radioactifs, parce qu'ils s'échappent. Soit gazeux, soit solides, ils peuvent s'échapper du réacteur. Et donc, on peut donc avoir toute une zone qui soit touchée par ces résultats de l'accident. Mais même en fonctionnement, ce qu'on dirait normal, c'est-à-dire sans accident, automatiquement, on produit ces produits radioactifs très dangereux. Ça, c'est ce qui se passe dans le réacteur. Mais cet uranium, il vient de quelque part. Donc l'uranium, c'est un métal qui est connu depuis longtemps, puisqu'il y a un texte de la Convention sous la Révolution française qui autorisait l'exploitation des mines de pêche blende. C'était un dérivé dans lequel il y avait de l'uranium. Et ensuite, l'uranium a été utilisé sans qu'on sache que c'était de l'uranium. Enfin, c'est quelque chose qu'on trouvait dans la nature et qui était utilisé pour faire des peintures jaunes.
Okay.
Et pendant longtemps, les peintures jaunes donc étaient radioactives, et personne ne le savait, puisqu'on n'avait pas découvert la radioactivité. Et donc, il y a eu déjà, à une certaine époque, de ce fait, des accidents dont on ne savait pas très bien d'où ils sortaient. Mais, donc, dès le minerai d'uranium, on a un corps radioactif. Pour trouver ce minerai d'uranium, il y a des mines de minerai d'uranium. Et il y a eu en France, dans les années 50, beaucoup d'ouvertures de mines pour récupérer de l'uranium pour les premiers réacteurs nucléaires. Et il y a 250 mines fermées, répertoriées en France.
Okay.
Et chacune de ces 250 mines, il y a des résidus, il y a du minerai, il y a donc une certaine radioactivité. Il y a des petites mines qui ont été assez vite abandonnées, donc on sait qu'il y a une zone qui pourrait être un petit peu dangereuse, mais pas plus que ça. Enfin, c'est quelque chose de très faible risque. Par contre, il y a des mines qui ont été exploitées pendant longtemps, donc il y a des résidus, il y a des remblais, etc. Et donc, à partir de ces résidus des mines, il peut y avoir des pollutions des eaux, par exemple. Et donc, il y a certains sites qui sont très surveillés parce que, justement, on sait que là, il y a eu des exploitations minières. Alors, après, les mines françaises ont été arrêtées à peu près toutes dans les années 60-70. Et la France, puisqu'elle a développé des programmes nucléaires beaucoup plus importants, a importé l'uranium. Alors, au début, la France a profité de ces colonies ou ex-colonies pour exploiter des mines d'uranium au Gabon et surtout au Niger. Et puis après, on a acheté à l'Australie et au Canada. Et aujourd'hui, le plus grand producteur d'uranium, de minerai d'uranium, c'est le Kazakhstan, qui a des mines très riches et qui donc tout le monde se tourne vers le Kazakhstan. Il est évident que ces mines sont des lieux de forte radioactivité, de déchets, de boue. Et on sait très bien qu'au Niger, il y a des tas d'équipements plus ou moins rouillés qui sont là et qui sont effectivement radioactifs. Et alors, dans certains pays, c'est peut-être mieux en Australie, au Canada, peut-être qu'ils font plus attention, mais on sait très bien qu'au Niger, ça a été très surveillé et dénoncé par la CRIRAD, essentiellement pour le Niger. Et pour le Kazakhstan, personne n'est allé voir exactement comment ça se passe. Donc en fait, le seul fait d'exploiter ces mines dans des pays sur lesquels on ne peut pas tellement intervenir, c'est quand même un problème grave pour les travailleurs d'une part et aussi pour les populations, parce que dès qu'il y a une mine, ben, y a des gens qui travaillent, il y a des familles, il y a des villages qui se créent ou des villes, et donc on a des zones dans lesquelles il peut y avoir des risques. C'est vrai en particulier dans l'ex-URSS, ou du temps de l'URSS, où il y avait des villes secrètes, où on faisait des opérations très complexes, sur, en particulier pour l'industrie militaire, et on sait qu'il y a des zones qui étaient absolument, extrêmement dangereuses du fait de cette radioactivité. Alors après, si on continue, ce minerai, il est traité sur place en partie, et devient un oxyde d'uranium qu'on appelle le yellow cake, parce qu'il est jaune, justement. Et après, il est transporté en France à l'usine de Malvézy, où on commence à traiter ce yellow cake pour le transformer en partie sur place et après à pyrolate en hexafluorure d'uranium. C'est un gaz que l'on met dans l'usine d'enrichissement d'uranium. L'usine d'enrichissement d'uranium qui petit à petit sépare l'uranium 235 et l'uranium 238, et au bout d'une centaine, voire de milliers de centrifugeuses, on obtient de l'uranium enrichi. Mais en parallèle, on garde des quantités très importantes d'uranium appauvri. Et cet uranium appauvri, il est radioactif. Pour le moment, on le dépose sous des hangars, dans le Limousin, à Bessines, et on a 350 000 tonnes d'uranium appauvri qui sont là. Et cet uranium appauvri est faiblement radioactif, mais sur des périodes très longues. La demi-vie, c'est-à-dire le temps au bout duquel la moitié de l'uranium 235 a disparu à cause de sa radioactivité, c'est 25 000 ans, quelque chose comme ça. Et pour l'uranium 238, c'est 1 million d'années. Et donc, cet uranium appauvri va rester radioactif pendant extrêmement longtemps, et pour le moment, il est dans des hangars dans le Limousin.
Alors, attends. Je voudrais juste essayer de comprendre. J'imagine que le niveau de radioactivité des différents éléments dont tu as parlé n'est pas le même.
Oui.
Et par exemple, quand tu me parles de l'extraction de l'uranium, j'imagine comme ça que l'uranium qu'on récupère n'est pas tant radioactif que ça avant qu'il passe dans les centrifugeuses et tout. Mais c'est juste.
Non, il est
quand même dangereux.
Ben, il n'est pas plus dangereux quand il passe dans les centrifugeuses et tout. Hein. C'est le même uranium. C'est l'uranium. Alors, au départ, c'est de l'uranium naturel.
Oui. Mais ça, c'est déjà dangereux. C'est-à-dire que moi, si je prends un caillou d'uranium que je trouve dans une vieille mine désaffectée.
C'est très faiblement radioactif, mais c'est radioactif.
OK.
Voilà. Après, je le fais passer dans toutes ces opérations de transformation. Bon, uranium, il est toujours radioactif.
Mais il l'est de plus en plus.
Pas forcément. Non. Parce que dans cette radioactivité, il y a un peu plus, parce que tu as un peu plus d'uranium 235. Mais on passe de 0,7% d'uranium 235 à 3 à 5% d'uranium 235.
Okay.
Donc il y a un peu plus. Et par contre, l'uranium 238, lui, est là, il est très important. Et lui aussi est radioactif. Il est radioactif plus faiblement parce que sa durée de vie est beaucoup plus longue, mais il est beaucoup plus longtemps.
Mais si on en restait à cet uranium naturel, il n'y aurait pas beaucoup de risques de radioactivité.
On n'en fait rien.
Oui, ça, on n'en fait rien. Je suis là qu'on ne va pas en faire des colliers.
On ne va pas faire des colliers. Donc, le point de départ, c'est l'uranium, qu'il soit naturel ou enrichi. Mm-hmm. Il n'est pas très radioactif, mais il l'est quand même.
Oui.
Et donc, y a dans les mines et dans les usines, etc., il faut faire gaffe de la protection des travailleurs.
Okay.
Ces usines elles-mêmes ont des déchets, des résidus, etc., qui peuvent s'entasser, qui constituent aussi des déchets radioactifs, faiblement radioactifs, mais quand même.
Okay.
Et après, une fois qu'on a l'uranium enrichi, après l'usine d'enrichissement, on fabrique le combustible.
Ouais.
Ce combustible, c'est des crayons qui sont constitués de petits cylindres d'uranium, et ça va dans le réacteur nucléaire.
Alors quand tu dis crayon, moi j'entends un crayon un crayon à bic, enfin, ou un crayon à mine.
C'est à peu près comme ça.
J'imagine que c'est beaucoup plus gros quand même.
Non, un crayon de combustible, c'est 1 centimètre de diamètre.
Ah ouais.
Et c'est long de 4 mètres. Et on les assemble ensemble, on rassemble à peu près 250 de ces crayons pour constituer ce qu'on appelle des assemblages.
D'accord.
Et ces assemblages, on les met ensemble dans le réacteur de façon à produire suffisamment de quantité de fission et de réaction en chaîne pour produire cette fameuse
chaleur
et produire radioactif. Ce combustible, il est utilisé, disons, à peu près 3 ans. Okay. Et donc, pendant ces 3 ans, la quantité d'uranium-235 diminue, puisque oui. C'est lui qui subit
puisque c'est
fissions,
ça la réaction en chaîne.
C'est ça la fission, réaction en chaîne, il diminue. Et à un moment donné, il n'est pas assez, il faut le remplacer. Donc oui. Au bout de 3 ans, on le sort. Alors ce qu'on sort, c'est un truc hyper radioactif,
ah oui,
puisque ça contenait tous ces produits de fission et actinides mineurs. Et donc c'est très radioactif, en plus c'est très chaud, parce que la radioactivité elle continue à l'intérieur des crayons, donc j'ai toujours une production de chaleur. Et on les met dans ce qu'on appelle des piscines, qui sont des bassins à côté du réacteur, de façon à les refroidir et attendre un peu que baisse la radioactivité.
Okay. Et donc là par exemple, je les mets dans des bassines d'eau,
oui.
Mais donc cette eau devient radioactive.
Non, parce qu'il y a la gaine qui protège le combustible. Donc la radioactivité reste à l'intérieur du combustible.
Okay.
Mais il faut renouveler l'eau en permanence parce que ça chauffe.
Donc
il faut qu'on ait une circulation d'eau. La radioactivité, elle est dans les crayons,
okay.
Dans les assemblages.
Et elle y reste.
Dans les autres pays, ce qu'on appelle les déchets ultimes, c'est ce combustible irradié.
Okay.
Qui contiennent tous les produits les plus dangereux. Historiquement, au début, l'intérêt de cette opération de faire des réacteurs, c'était pour produire du plutonium pour faire la bombe. Donc on avait inventé ce qu'on appelle le retraitement des combustibles, c'est-à-dire on sort les combustibles et on a extrayé le plutonium. Alors la plupart des pays qui avaient fait ça au début, lorsqu'ils sont passés aux centrales nucléaires, n'ont pas continué le retraitement.
Okay.
En France, on a continué la production du plutonium. Pourquoi ? D'abord, bon, pour les usages militaires, mais après pour les usages civils, parce que le plutonium est à son tour est fissile, c'est-à-dire il a les mêmes propriétés que l'uranium-235, et donc on peut faire des réacteurs avec du plutonium, ce qu'on a appelé les réacteurs à neutrons rapides ou surgénérateurs, et qui a permis de construire Rhapsody, Phoenix et Super Phoenix. Mais Super Phoenix ayant été arrêté, on pouvait penser qu'on arrêterait le retraitement. Pas du tout. La stratégie nucléaire française maintient le fait qu'un jour on fera des surgénérateurs et que donc il faut continuer à produire du plutonium.
Mais donc là, aujourd'hui, on produit du plutonium qu'on stocke quelque part en attendant qu'un jour peut-être quelque chose.
Comme il y a eu une surproduction, il y a à peu près 60 tonnes de plutonium stockées à La Hague. Alors c'est un peu inquiétant parce que c'est vrai que c'est pas un plutonium de qualité militaire, mais quand même, on peut faire des bombes moins bonnes que les très bonnes, mais avec ce plutonium, et on en a 40 tonnes. Alors qu'il faut, disons, 12 kilos de ce plutonium pour faire une bombe. Donc il y a quand même un léger problème de dire que si un pays possède la technique du retraitement, il peut faire la bombe avec du plutonium. C'est une parenthèse, mais qui a son importance.
Bien sûr.
Donc, on continue, on fait ce retraitement. Alors, ce retraitement, qu'est-ce qu'il fait ? On sépare le plutonium, on sépare l'uranium, et puis, le reste, c'est les produits de fission et les actinides mineurs, c'est-à-dire les corps plus lourds qui n'existent pas dans la nature. Donc, d'une certaine façon, c'est assez intéressant, on a produit en particulier américium, curium, neptunium, qui n'existaient pas, qui sont créés par cette opération dans le réacteur nucléaire. Et donc on a le plutonium, l'uranium, bon ben il reste là, l'uranium de retraitement, parce qu'on ne sait pas quoi en faire, donc il est entreposé à La Hague. Le plutonium, on a trouvé une idée de faire des combustibles pour les réacteurs actuels, qu'on appelle les combustibles MOX, c'est-à-dire l'oxyde mixte d'uranium appauvri et de plutonium. Donc c'est un nouveau combustible qu'on met dans une partie des réacteurs actuels, ce qui complique les choses, qui pose quelques problèmes de sûreté, mais c'est comme ça. Il faut absolument continuer à utiliser le plutonium, donc on fait du combustible MOX. Ce combustible MOX est utilisé dans les réacteurs, 22 réacteurs de 900 MW actuellement, Et à la fin, tu as du MOX irradié. Ce MOX irradié, donc on le met dans les piscines comme les autres, mais comme il est plus dangereux et plus chaud et plus radioactif, il reste plus longtemps. Donc, je sais pas, au lieu de 3 ans, 6 ans, par exemple. Et puis, on l'envoie à La Hague. Mais à La Hague, il n'est pas retraité. Donc, il est dans les piscines. Et les piscines entassent du MOX, dont on sait très bien que probablement on ne fera jamais rien. Donc, ça fait un déchet. Mais encore on ne l'appelle pas déchet parce qu'on dit que peut-être un jour, on arrivera à le retraiter. Ah oui. À partir de là, ça devient assez dantesque, c'est-à-dire que on a donc ce plutonium, on a ce stock de 40 tonnes et on essaye de pas l'augmenter en fabriquant du MOX. On a ce MOX qui fait le tour par les réacteurs, mais qui finalement se retrouve...
C'est encore pire que quand on l'avait au départ.
C'est pire que quand on l'avait au départ. Il y a l'usine Mellox qui fabrique le MOX, qui est en mauvais état et qui fait des tas de rebuts. Et donc, il y a une crise actuelle de la production du MOX. Et en parallèle, cette fameuse usine de retraitement, c'est-à-dire qui sépare donc ce que je viens d'expliquer, pour le moment, elle est arrêtée parce qu'il y a ce qu'on appelle les évaporateurs. Ces évaporateurs, c'est quoi ? C'est que quand on a fait toutes ces opérations chimiques, on a une espèce de jus qui contient les produits de fission et les actinides mineurs, mais ce jus, il est extrêmement dangereux.
Oui, on l'imagine.
Il est dans des cuves, et si on les laissait dans ces cuves, il faudrait en permanence agiter et refroidir ces cuves, de toute façon qu'il n'y ait pas de concentration de certains corps qui pourraient faire des réactions. Et donc, la solution qui a été appliquée, c'est de faire avec ce jus, de le sécher, justement, dans des évaporateurs, et de le mélanger au constituant du verre pour faire ce qu'on appelle les déchets vitrifiés, c'est-à-dire les produits de fission.
Okay.
Les produits de fission et les actinides mineurs se retrouvent dans des cylindres de verre qui sont extrêmement chauds, extrêmement radioactifs, qu'on stocke dans des grandes colonnes à La Hague, qui sont refroidies par de l'air, parce que c'est très chaud et très radioactif, et donc on fait circuler de l'air à la fois circulation naturelle et circulation forcée. Et ils sont là pendant 10, 20, 30, 40 ans parce qu'ils sont tellement chauds et tellement radioactifs qu'on ne peut rien en faire. Il faut les garder dans ces conditions-là. Donc on se retrouve avec tout ça, avec d'une part de l'uranium appauvri, on l'a vu tout à l'heure, en très grande quantité. Après ça, du plutonium sur les étagères en quantité notable. Des combustibles irradiés, parce qu'on ne peut pas tous les retraiter. Il y en a un certain nombre, des combustibles irradiés normaux qui s'accumule un peu plus à La Hague, les MOX irradiés qui sont pas retraités, donc qui s'accumulent dans les piscines de La Hague, et en plus une usine de La Hague qui actuellement a des problèmes, et l'usine UP3, qui est l'une des deux usines, est arrêtée parce qu'il y a une panne qui fait qu'on est obligé d'arrêter l'usine. Et donc à la fin, on a donc une quantité considérable de déchets radioactifs différents.
Oui. Alors, avec des problématiques différentes, des durées de vie différentes, des chaleurs différentes, Vous êtes bien sur Radio Libertaire 89.4 et vous écoutez Le Nucléaire et son Monde.
Take out the
Vous êtes bien sur Radio Libertaire 89.4 et vous écoutez Le nucléaire et son monde.
Il y a d'abord une séparation entre ce qu'on appelle le déchet radioactif et les matières nucléaires. Le déchet radioactif, on considère que c'est quelque chose, on ne peut pas le transformer, c'est fini, c'est la fin des haricots. Et donc, c'est essentiellement les vitrifiés,
ouais.
Les déchets qui sortent essentiellement d'ailleurs de l'usine de La Hague, tous les outils qui ont été radioactifs, dans lesquels il y a des produits radioactifs de vie longue aussi, dans ce qu'on appelle le déchet de moyenne activité. Après ça, il y a des déchets de faible activité à vie longue. Après ça, il y a des déchets de très faible activité. Et pour tout ça, il faut proposer une solution. Alors, les déchets de très faible activité sont stockés déjà. On considère que c'est définitif dans des lieux. Il y en a trois en France. Le stockage de la Manche, à côté de l'usine de La Hague, où sont entassés des fûts de ces déchets. À Morvilliers, aussi dans l'est de la France, autour de Verdun et tout. Et puis à Soulaine. Et là, on les entasse et on les met sous de la terre. Et ça doit être considéré comme devant durer plusieurs centaines d'années. Mais ce sont des produits qui vont décroître normalement en quelques centaines d'années. Donc okay. On arriverait à un truc qui serait gérable. Il se trouve que le stockage de la Manche a été mal fait et qu'on pense qu'il y a pas mal de plutonium à l'intérieur et que donc il faudra probablement soit le refaire, soit le surveiller nettement plus longtemps. Longtemps, dans l'histoire du nucléaire, on a considéré que les déchets, ma foi, à l'époque militaire, c'était évident que les déchets n'avaient aucune importance. Il fallait produire la bombe, donc il y avait des déchets. Le centre de Hanford, qui correspond un peu à la Hague, le projet Manhattan, il y a des déchets.
Le projet Manhattan, le projet de la création de la bombe atomique.
Il y a des déchets absolument partout. Il a été fermé depuis des dizaines d'années, et ils sont en train d'essayer de le nettoyer. Le budget du nettoiement de Hanford, il y a un film qui a été fait là-dessus d'ailleurs très bien par Watanabe. Le truc d'Hanford, ils ont 2 milliards par an et ils pensent qu'ils en ont bon peut-être pour 60 ans voire un siècle. Ils sont tranquilles. Ouais. Il y a une petite ville qui est à côté qui vide ça quoi.
Juste pour nettoyer le projet Manhattan.
Ah ben non, une partie du projet Manhattan.
Okay.
C'est là où il y avait justement les usines de retraitement et de production du plutonium qui était envoyé ailleurs puisqu'il y avait d'autres centres dans le Nevada et tout ça, mais Hanford c'est vraiment là qu'il y avait le retraitement. Alors c'est pourri à un point invraisemblable et la rivière est pourrie, enfin c'est affreux. La Hague, on n'en est pas là, peut-être qu'un jour on y sera, mais pour le moment c'est plutôt mieux surveillé. Mais cette usine de la Hague donc produit tous ces déchets. Un certain nombre d'entre eux, par exemple l'uranium de retraitement, à peu près on n'en fera jamais rien. Mais on dit, mais peut-être qu'un jour, on pourra l'utiliser. Donc, c'est une matière, ce n'est pas un déchet. Le MOX, dont on pense qu'un jour, on pourra... Oui. C'est une matière, ce n'est pas un déchet. Les combustibles irradiés non retraités, c'est une matière, ce n'est pas un déchet. L'uranium appauvri, 350 000 tonnes, c'est une matière, parce qu'on ne sait jamais un jour, on pourra l'utiliser. Et donc, il y a toute cette quantité qui est mise de côté en les appelant matière, mais dont on sait très bien qu'il faudra quand même s'occuper un jour. Alors, les autres, c'est les déchets dont j'ai parlé. Alors, les plus dangereux, c'est les hautes activités à vie longue, c'est-à-dire les verres.
Ouais.
Et puis, les moyennes activités à vie longue, c'est-à-dire tous ces bidons ou tous ces colis qui contiennent tous les outillages, tout ce qui a été rendu radioactif par les opérations des usines, essentiellement, l'usine de la Hague et les autres. Et alors ceux-là, on dit, ben écoutez, vraiment, on ne sait pas quoi en faire. Sachant que l'existence même de ces déchets remet en cause l'ensemble de l'activité nucléaire. L'Allemagne a décidé de sortir du nucléaire pour trois raisons. Un, le risque d'accident, Tchernobyl, Fukushima, etc., qui est réel sur les centrales françaises.
Bien sûr.
Et les trois présidents de l'autorité de sûreté nucléaire qui se sont succédés, Lacoste, Chevet et Doroszczuk, ont dit l'accident grave est possible en France. Pour moi, quand quelque chose est possible, c'est qu'il peut se produire, par définition.
Oui, je suis assez d'accord.
Et quand on voit ce que ça veut dire, par exemple, un accident au Tricastin où toute la vallée du Rhône pourrait être polluée, on se pose des questions. Donc, première raison, l'accident. Deuxième raison, les déchets radioactifs. Il n'y a pas de solution pour le moment satisfaisante. Mmh. Et donc, on arrête le nucléaire. Il faudra s'inquiéter des déchets existants.
Bien sûr.
Au moins, on arrête d'en produire. Mais... Tu vois, on arrête d'en produire et puis on dit, bon, écoutez les mecs, on a arrêté d'en produire, maintenant qu'est-ce qu'on fait ? Mm-hmm. Tandis que là, on produit sans arrêt, c'est-à-dire que même si on fait le projet CIGEO et qu'on enfouit des déchets, eh ben, si on continue le nucléaire, il faudra faire un deuxième CIGEO. Et puis un troisième, et puis pourquoi pas, etc.
Et tu m'as dit, il y avait trois raisons.
Troisième raison, c'est la prolifération. C'est-à-dire que le développement de l'industrie électronucléaire amène à utiliser les techniques qui sont les mêmes pour le nucléaire militaire que pour le nucléaire civil. C'est-à-dire réacteur, possibilité de production du plutonium, retraitement, enrichissement. Donc les pays disent, bah, écoutez, nous on fait comme la France. On va faire de l'enrichissement pour avoir du combustible, on va faire le retraitement pour du plutonium parce que quand même on peut faire des surgénérateurs. Et puis voilà, et donc on a tout ce qu'il faut pour faire soit de l'uranium enrichi, très enrichi, avec les centrifugeuses, pour faire une bombe à uranium, ou bien produire du plutonium pour faire une bombe au plutonium. Sachant qu'au Japon, la bombe de Hiroshima était à l'uranium et la bombe de Nagasaki au plutonium. Donc bon, ben, on fait pareil.
Ok. Vous êtes bien sur Radio Libertaire 89.4 et vous écoutez Le Nucléaire et son Monde.
Lover boy. Try it! Pick it up!
Continuons notre voyage dans le monde assez terrifiant des déchets nucléaires. Et avant de nous poser la question de qu'est-ce que nous pouvons en faire, la discussion a continué avec Bernard sur le site de La Hague. Je partage ici donc cette discussion que nous avons eue sur La Hague. Et donc en fait, quelque part, cette question des déchets de la production d'électricité nucléaire, c'est effectivement la chose qu'on ne veut pas voir depuis le début, qu'on connaît depuis le début. Mais effectivement, reconnaître qu'on ne sait pas quoi en faire, c'est tuer l'industrie du nucléaire, en fait.
C'est surtout de pouvoir dire que ce problème est résolu. Voilà. Et pouvoir dire, non, mais il n'y a pas de problème. Certes, on produit des déchets, certes, ils sont dangereux, mais ils sont très bien surveillés, ils sont entreposés dans des conditions sûres, etc. Ce qui se discute, d'ailleurs, parce que la Hague, c'est un lieu extrêmement dangereux. C'est l'endroit du monde où il y a le plus de quantité de combustible irradié.
Il ne faudrait pas qu'il y ait un cyclone qui passe par la Hague.
Et un cyclone ou des agressions extérieures.
Bien sûr.
Ce qui est facile, hein, quand même. Donc, cette chaîne du retraitement, enfin, les autres pays sont plus sages. Ils s'arrêtent au combustible irradié.
Et ils en font quoi de ce combustible irradié ?
Ils les entreposent à sec, pour le moment, dans des trucs très perfectionnés, d'ailleurs en acier et en béton. Et ils disent, bon, ben, pour le moment, ça va, ils sont bien contrôlés, protégés, etc. Aux États-Unis, d'ailleurs, la moitié des conteneurs utilisés pour cet usage sont fabriqués par Orano, donc on pourrait faire la même chose en France. Et après, ils se posent la même question que tout le monde, et il y a des gens qui disent, oui, il faut faire du stockage géologique profond, mais bon, pour le moment, tous les projets aux États-Unis se sont cassés la gueule, donc pour le moment, ils ont ce truc. Ils sont bien protégés localement, et puis qu'est-ce qu'on va en faire ? Ben, on verra, quoi.
Et est-ce que toi, par exemple, depuis le début, tu entends l'industrie nucléaire dire « dans 5 ans, on aura trouvé la solution » ?
Non, c'est même pas dans 5 ans, on trouvera la solution.
Ah, il n'y a même pas de date, on s'en fout.
Non, c'est un peu comme la fusion, dans 40 ans, on aura fait la fusion. Ça a commencé en 45, et on en est à peu près là toujours. Mais les déchets au début, si tu veux, c'était pas une question, quoi. C'était, bon, bah, on les pose, on fait un peu attention, mais c'est avec l'accumulation que tout d'un coup, il y a eu une prise de conscience qu'il y en avait partout, quoi.
Et c'était pas une question, mais plutôt liée à la question de la bombe. C'est-à-dire qu'en fait, il nous fallait tellement la bombe que, ça générait, on s'en foutait, c'était moins important.
Après, même à l'époque des premières centrales, si tu veux, moi je me souviens très bien, enfin, puisque j'y étais. Les déchets, c'était une conséquence malheureuse. Bon, mais comme les ordures ménagères.
Ouais.
Pendant longtemps, on ne s'est pas occupé des ordures ménagères. Puis maintenant, on commence à dire, attendez, il y a des trucs partout, c'est malsain, on ne sait pas quoi en faire, etc.
Éjecté directement en mer, et que Greenpeace avait dénoncé ça. C'est quoi cette image que j'ai en tête, là ?
Mais c'est vrai. L'usine de la Hague, c'est une usine chimique. C'est-à-dire, on met de l'acide pour... traiter ce combustible irradié. Donc, on prend
les crayons, là.
On prend les assemblages, on les démonte, on prend les crayons, on les coupe en morceaux, on fait un premier traitement de façon à séparer les gaines qui sont métalliques, mm-hmm. On les met d'un côté, il nous reste les petits trucs d'uranium, les petites pastilles d'uranium. Les pastilles d'uranium, on met l'acide, et cet acide, cette opération chimique, va séparer le plutonium, l'uranium, et puis produit des fissions, etc. Tout ça produit des effluents gazeux, dont une partie peut être filtrée, mais il y en a quand même pas mal qui va dans l'atmosphère, et des rejets liquides qui sont d'une quantité, mais considérable, radioactive, bien plus que les eaux de Fukushima. Et ça, c'est un grand tuyau qui part de l'usine et qui va rejeter, je sais pas, une grande distance en mer, où il y a un courant très fort, le rat Blanchard. C'est pour ça qu'on a mis la Hague là-haut, en partie, c'est que ce courant emmène tout ça vers la mer du Nord et l'Atlantique Nord.
Mais encore aujourd'hui ?
Mais oui. Mais bien sûr, l'usine de la Hague met dans la mer des quantités considérables de produits radioactifs.
Mais comment ça passe sous la ligne des radars ? Enfin, je comprends pas, c'est-à-dire que...
Ça passe pas sous la ligne des radars, c'est comme ça, c'est autorisé.
Mais on ne teste même pas la radioactivité de ce qu'on balance dans l'eau ?
Si, on le sait, oui.
Ah, on le sait, et on s'en fout.
Bah, on s'en fout.
Enfin, en tout cas, la Hague s'en fout.
Oui, parce qu'il Les autorisations, d'ailleurs, quelquefois, quand j'étais chez Voynet, il y avait cette question qui voulait augmenter la quantité de rejets autorisés, et elle avait refusé. Mais une fois qu'elle est partie, le gouvernement a changé, on a autorisé à rejeter plus. Et puis il y a un traité international qui s'appelle OSPAR, Oslo-Paris. qui est le traité OSPAR, qui dit il faut réduire, amener à zéro les rejets chimiques et radioactifs dans la mer, dans la Manche et dans la mer du Nord, dans cette zone. Et la France a signé, moi je me souviens très bien, c'était déjà en 99-2000, c'était la grande discussion autour d'OSPAR. Et récemment, ils se sont tendus en disant que finalement, l'objectif arriver à zéro, ce serait 2040 ou un truc comme ça. Et donc les rejets de la Hague sont colossaux. Colossaux.
Et donc ça, Greenpeace, par exemple, fait des études sur, des prélèvements de poissons pour voir la radioactivité.
C'est l'accro qui fait ça. L'accro, c'est...
Et l'apostrophe accro ?
Oui, accro.
Okay.
C'est la CRIRA de la partie nord-ouest de la France.
Okay.
Avec des gens remarquables qui font des mesures, qui dénoncent des trucs, etc. Sur le stockage de la Manche dont j'ai parlé, sur les rejets. Il y a Jean-Claude Zerbib aussi qui connaît très bien tout ça. Et on fait une pollution permanente de la mer du Nord et de l'océan. Permanente et très forte.
C'est dingue.
Et tout ça à cause du retraitement. On pourrait très bien ne pas retraiter.
Ça n'empêche pas. Ça c'est juste une conséquence du choix de retraiter pour continuer à garder du plutonium. Alors que là, grosso modo, si je comprends bien ce que tu m'as dit tout à l'heure, les 40 tonnes de plutonium qu'on a sur les étagères, comme tu dis, suffiraient largement à faire toutes les bombes atomiques qu'on voudrait jusqu'à la fin des temps.
Ce n'est pas de la qualité militaire. On peut quand même, c'est pas...
Ça serait une bombe sale.
Voilà, ce serait une bombe pas super.
Ouais.
Mais
c'est une bombe propre, bien connue.
Surtout, le problème de la Hague, c'est de d'abord cette quantité de rejets, qui est considérable.
Ouais,
Là, il faudrait interviewer le président de l'ACRO, qui est un type remarquable, David Boilet, et Jean-Claude Zerbib, ou Yannick Rousselet. Enfin, il y a deux, trois personnes qui connaissent parfaitement la Hague. Et donc ces rejets sont considérables. Et puis c'est un lieu de risque énorme parce que dans les piscines de la Hague, où tu mets les combustibles irradiés, il y a la quantité de 100 réacteurs.
Ok.
Combustibles irradiés. C'est le lieu le plus dangereux au monde, du point de vue du danger radioactif. Parce que,
même si c'est un combustible usagé, le fait qu'il y en ait autant au même endroit, c'est incommensurable le risque par rapport à une centrale qui pète, c'est ça que tu dis ?
Oui, les quantités sont beaucoup plus... Mais surtout, c'est pas protégé. La piscine de la Hague, c'est un toit un peu comme le mien, quoi. Il n'est pas en verre, mais il est en tôle.
Tu veux dire, il n'y a pas de cuve de confinement, il n'y a pas de...
Il n'y a pas de protection, ça fait des années que ça a été dénoncé sur le risque par rapport à une agression externe.
Bien sûr.
D'ailleurs, quand il y a eu le... C'est 2001, le... C'est 2001, le...
L'Odyssée de l'espace ?
Twin Towers, pardon.
Oui.
Eh bien, quand tu as eu les Twin Towers, le risque de la Hague a été dénoncé violemment, en particulier par Michael Schneider. Enfin, tous les gens qui connaissent la Hague ont dit, mais la Hague, avec ses piscines à ciel ouvert, c'est un lieu très dangereux. Et donc, ils ont mis comment ça s'appelle ? Des fusées de défense, là, tu sais.
Ah, de la DCA ? Enfin, des missiles anti-aériens ?
Des missiles anti-aériens. Autour de la Hague. Et puis...
S'il te plaît.
Il y a quand même... Il y a des gens qui ont fait remarquer que, bon, les voies aériennes au-dessus de la Hague, c'est énorme.
Dans quel sens c'est énorme ?
Ben, il y a plein d'avions qui passent par là.
Ah oui, ok.
Alors, suppose qu'il y en ait un qui dévie.
Un petit peu.
Qu'est-ce qu'on fait ?
On
tire
shoot,
dessus ?
On le shoot.
Donc au bout de quelques mois, ils ont enlevé leur fusée parce que...
parce que ça allait mal finir.
Qui téléphonait au colonel, qui téléphonait au général, qui téléphonait au président de la République.
Alors bon, il y a un Airbus d'Air France, là, on ne sait pas bien.
Ouais. Voilà. Ouais. Et donc ce lieu, si tu veux, n'est pas protégé. Mais là, tu peux interroger Yannick Rousselet, donc de Greenpeace, qui connaît parfaitement Zerbib. Ils ont même fait un rapport très détaillé sur les risques des piscines, que ce soit les réacteurs ou ceux de la Hague, qui d'ailleurs n'a pas été public, mais qu'ils ont donné aux autorités françaises en disant, écoutez, quand même, il y a ça, secret défense. Donc tout ce qui est les risques, que ce soit les centrales, les piscines, les centrales, qui sont aussi pour la plupart d'entre elles, les centrales actuelles, les piscines ne sont pas protégées
par un dôme en béton.
Par contre, l'EPR, la piscine est protégée. Mais les piscines de La Hague et les piscines des réacteurs, c'est des cibles extraordinaires, et surtout celles de La Hague. Et ça a été dénoncé, ça a été dit. Ça fait des années qu'on demande qu'on arrête le retraitement. Et la réponse est toujours ah non, non. Alors pour les risques, c'est secret défense. Alors on se demande qui s'en occupe, moins, parce voilà. que, bon, tu.
Bah, circuler, il n'y a rien à voir, comme on dit.
Et pour les piscines des réacteurs, pour ce risque, si tu veux, on fait toujours allusion au, tu sais, le pilote qui avait détourné l'avion et puis
qui s'est tué
contre une colline.
Ouais.
Ben, on pense qu'il se dirigeait vers Tricastin. C'était juste sur sa route. Il est probable qu'il visait il visait un objectif nucléaire, mais il s'est planté dans son pilotage et il s'est payé la montagne. Mais il est certain que son objectif n'était pas de se payer la montagne, c'était de créer un événement terroriste, on peut dire, mais voilà. Et donc, c'est un lieu très dangereux et dont la protection. Alors, justement, Yannick Rousselet t'expliquera qu'il y a des tas de drones qui passent sur La Hague, on ne sait pas très bien qui c'est qui les pilote. Et puis il ne se passe rien. Bon. Mais secret défense.
Ok.
Donc cette question de La Hague, ce n'est qu'une partie de la question nucléaire, parce qu'on peut très bien avoir des centrales nucléaires comme dans les autres pays, c'est-à-dire on s'arrête au combustible irradié. Qui ne règle pas le problème des déchets, mais qui simplifie par rapport à cette espèce de truc extravagant de production de plutonium, on ne sait pas pourquoi, pour des surgénérateurs qui, à mon avis, ne verront jamais le jour, parce que c'est dangereux et c'est très cher. Mais ça continue dans la stratégie française.
Oui, c'est ce que tu disais tout à l'heure, c'est que ça permet de placer ces déchets dans la case matière, et donc de ne plus l'avoir dans la case déchets, quoi.
Oui, mais bon, si c'est ça le seul but, tu vois, tu te dis, bon...
Ah non, mais c'est aberrant. Mais de toute façon, il y a quand même beaucoup de choses qui sont aberrantes, là. Enfin, c'est-à-dire...
La France est maintenant le seul pays au monde à faire ça. Et un peu les Russes, parce qu'ils ont besoin de plutonium pour un réacteur surgénérateur, mais des quantités beaucoup plus faibles. La France, il n'y a que la France qui... Il y avait les Anglais qui avaient fait la même chose, ils ont arrêté. Donc ils font plus depuis 2 ans, définitivement ils ont arrêté le retraitement. Et la France continue et dit, mais non, on continue. Alors l'usine de La Hague, ben, quand même elle vieillit. Eux ils disent qu'elle va tenir normalement jusqu'en 2040. Mais d'après Zerbib et les autres, c'est probablement avant. Et si elle se détériore, c'est bien pire, parce que c'est un lieu, je te dis, très, très, très dangereux, quoi.
Ouais, c'est la poubelle du nucléaire.
Pour le moment, oui. Alors, mais après, on pourra les mettre ailleurs, mais...
Ouais, pour l'instant, on ne sait pas trop, quoi.
Voilà.
Ok. Bon, bah écoute, voilà un épisode bien dense. Ah bah c'est sûr que de toute façon, l'ambiance générale de notre podcast n'est pas au beau fixe.
Quelquefois c'est plus drôle, mais...
Quelquefois c'est plus drôle.
La question des déchets, c'est vraiment... Non, puis si tu veux, on a le sentiment d'arriver dans une situation un peu d'impasse, dont pas mal de gens sont conscients quand même, mais c'est jamais dit ouvertement. Parce qu'il y a tout un travail autour de toutes ces questions. Hein. Ça s'appelle le plan national de gestion des matières et déchets nucléaires. PNGMDR.
Bam.
Et moi, je suis dans le groupe de travail PNGMDR. Je suis dans la commission orientation du PNGMDR, dans lequel on fait des tas de remarques sans arrêt sur des trucs. Et on a obtenu qu'il y ait des études de scénarios, justement, sur qu'est-ce qui va se passer, quoi. Et on a obtenu qu'il y ait une étude d'un scénario d'accident nucléaire grave, dans quelle mesure ça remettrait en cause toute cette affaire. Mais le groupe de travail chargé de faire cette étude, il doit être mis en place avant la fin de l'année. Alors on attend. Mais si ce groupe de travail existe, nous on sera représentés dedans par Bertrand Chatot et Jean-Claude Zerbib, donc un qui connaît parfaitement les questions nucléaires et tout ça. Et Bertrand Chatot, c'est un prospectiviste très connu. Et peut-être qu'un jour, il y aura une prise de conscience qu'il faut faire quelque chose, quoi. Tandis que là, c'est toujours, ben, on va faire une prochaine piscine. Piscine qui va durer 100 ans, qui sera à moitié enterrée. Ouais. Enfin, tout ça à cause de cette idée qu'il faut absolument continuer le retraitement. Alors qu'on pourrait dire, bon, bah écoutez, on arrête au combustible irradié, et puis on va voir qu'est-ce qu'on fait. Et pour savoir qu'est-ce qu'on fait, comme tout le monde entier est dans la même situation, ça permet de réfléchir collectivement, tu vois, dire. Tandis que là. Et l'an dernier, moi, on avait presque une réunion par semaine, tu vois, toute l'année dernière, en vidéo, heureusement. Et on a pondu des textes dans lesquels on dit tout ça, on explique. C'était bien fait d'ailleurs, parce que le type qui était responsable, c'est un type remarquable, et qui donnait vraiment la parole à chacun, et qui, dans les papiers, dans les comptes rendus, la position de chacun apparaissait. Il y a toute une littérature qui permet de voir les solutions comme on pose sur chaque sujet. Il y avait des notes des uns et des autres, aussi bien EDF et Orano et CEA que nous, c'est-à-dire beaucoup. Enfin, nous, on s'est beaucoup investi avec l'OL Chance, et on a des notes sur tous ces sujets, en disant, mais non, là, nanana. Et t'as l'impression que là-haut, alors tout le monde s'en fout. C'est extraordinaire.
Oui, mais parce que je pense que c'est... Enfin, je sais pas, comme tu le racontes, moi j'ai l'impression que c'est... Bah, que ça remet trop en question la production d'électricité nucléaire. Alors effectivement, il y a déjà cette question de arrêter le retraitement ou pas. Bon, ça, on pourrait effectivement...
Ça, tu vois.
Mais ça, déjà, ce serait une grosse avancée.
Ben oui.
Mais de manière générale, je pense que le déchet nucléaire, on ne veut pas le voir parce que c'est l'ombre au tableau quand même.
Oui, bah, oui maintenant tu as beaucoup d'ombre au tableau. Tu as les déchets, tu as l'EPR qui est quand même pas terrible.
C'est une grosse ombre, oui.
Non, mais je veux dire, actuellement, tu te dis, mais bon, alors Macron dit, on va lancer nos réacteurs. Bon, dans quelles conditions, comment,
tu vois. Et avec quel argent
etc. quoi.
On se retrouve le mois prochain pour le nucléaire et son monde sur Radio Libertaire 89.4.
Chanteront le temps des cerises et guérosignol et merle moka seront tous en fête. Les belles auront la folie en tête et les amoureux du soleil au cœur. Quand nous chanterons le temps des cerises, sifflera bien mieux le merle moka. Mais il est bien court, le temps des cerises, où l'on s'en va de cueillir en rêvant, dépendant d'oreilles. Cerises d'amour, aux robes pareilles, tombant sous la forme, en gouttes de sang. Mais il est bien court, le temps des cerises, pendant de corail, qu'on cueille en rêvant. Vous en serez au temps des cerises. Si vous avez peur des chagrins d'amour, évitez les belles. Moi qui ne crains pas les peines cruelles, je ne vivrai point sans souffrir un jour. Quand vous en serez au temps des cerises, vous aurez aussi des peines d'amour. toujours le temps des cerises. C'est de ce temps-là que je garde au cœur une plaie ouverte. Et dame fortune, en m'étant offerte, ne pourra jamais fermer ma douleur. J'aimerai toujours le temps des cerises et le souvenir que je garde au cœur.
J'aimerai toujours le temps des cerises et le souvenir que je garde au cœur.
Oui, faites-nous des chansons et faites-nous les belles. Oui, faites-nous des chansons, nous les fredonnerons. Oui, faites-nous des chansons pour nous donner des ailes. Oui, faites-nous des chansons, nous nous envolerons. Si vous envolez, braves gens, aurez bien de la chance. Vous en aurez pas pour votre argent, pas pour votre espérance. Arrive que le chansonneur ait plus rien dans les poches, plus une miette de bonheur, plus une simple croche. Arrive que le rimailleur, là de se faire entendre ailleurs, reste dedans sa chambre, le cœur en plein décembre, et que le musicaillon bouffe le bois de ses crayons, déserté par les notes, les yeux remplis de flotte. C'est pas moi qui vous vendrai du troula troula l'air. C'est pas moi qui vous vendrai du vent. C'est ça qu'il vous fallait, du troula troula l'air. Si c'est ça, fallait le dire avant. Oui, faites-nous des chansons et faites-nous les tendres. Oui, faites-nous des chansons et nous les aimerons. Oui, faites-nous des chansons qui soient douces à entendre. Oui, faites-nous des chansons et nous les rêverons. Si vous voulez rêver, braves gens, ça sera pas facile. Le rêve a pris la clé des champs, il a quitté la ville. Arrive que le chansonneur aimerait bien se taire et planquer son petit malheur sous deux poignées de terre. Arrive que le scribouilleux puisse rien écrire de mieux, que sa chandelle soit morte, frappez pas à sa porte. Arrive que le musicard ait quelques bateaux de retard, que ses soupirs débordent, qu'il ait cassé ses cordes. C'est pas moi qui vous vendrai du troula troula l'air. C'est pas moi qui vous vendrai du vent. C'est ça qu'il vous fallait, du troula troula l'air. Si c'est ça, fallait le dire avant. Faites-nous des chansons et faites-nous les drôles. Oui, faites-nous des chansons, nous nous épanouirons. Oui, faites-nous des chansons que le rire nous frôle. Oui, faites-nous des chansons, nous les achèterons. Bien si vous rigolez, braves gens, ça sera la surprise. Faudrait pas tricoter longtemps votre matière grise. Arrive que le chansonneur ait pour vous trop d'estime, pour viser plus bas que le cœur, en dessous de la rime. Arrive que le paroleux, plutôt que de se vendre au mieux, préfère encore se taire, le cul posé par terre. Et que le pauvre écosse note, plutôt que de baisser culotte, reste dans sa cuisine à gratter en sourdine. C'est pas moi qui vous vendrai du troula.